passer, on va rester dans l'image, mais on va passer au cinéma avec vous, Mathieu Charrier. Et ce soir, vous allez nous parler du nouveau film porté par Fabrice Luchini. Ça s'appelle Un homme pressé.
Oui, c'est un film qui vaut plus par l'histoire qu'il raconte, adapté d'ailleurs d'une histoire vraie, que par sa représentation cinématographique. L'histoire, c'est celle d'un grand patron dans le secteur de l'automobile. Il s'appelle Alain. Il est donc incarné par Fabrice Luchini. C'est le genre de patron, vous savez, très froid, costume sombre. Chaque minute, chaque journée est une course. Avec, il faut bien le dire, peu de place pour les loisirs ou la distraction. Il travaille depuis plusieurs années sur un prototype de voiture électrique. Il a délaissé sa femme, qui est d'ailleurs décédée. Il a surtout sa fille qui cherche à tirer son regard, mais qui n'y arrive pas. Et un jour, Alain est victime d'un accident cérébral, ce qui entraîne des troubles de la mémoire et de la parole. Extrait.
C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées.
On va faire quelques tests.
Héliotrope, mardi, mercantile.
Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse.
Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe.
Quand vous vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il...
Salope.
Presque. Vous vous sentez comment aujourd'hui?
Je veux partir d'ici.
Voilà, c'est pas gagné. Alors pour se rééduquer, Alain va pouvoir compter sur une jeune orthophoniste qu'on entend. Elle est incarnée par Leïla Bekti, qui construit d'ailleurs sur un beau duo avec Fabrice Luchini. Et puis petit à petit, il va reprendre le dessus, le temps de vivre, découvrir sa fille. Voilà, c'est un peu cousu de fil blanc, mais ça nous fait sourire.
Et vous nous disiez, Mathieu, que ce film est basé sur une histoire vraie.
Oui, l'histoire de Christian Streiff, qui est à l'époque à la direction de PSA, Peugeot Citroën. Il a été victime de cet AVC il y a 10 ans. Il en a fait un livre qui a servi au film. Écoutez-le.
Moi, j'ai deux vies aujourd'hui, hein, la première et la deuxième, hein, c'est clair. Avant, je buvais beaucoup de café, je dormais peu, ainsi de suite. C'était le début de la crise. En 2008, l'automobile allait très très mal. On plongeait. Donc ça me préoccupait énormément. Je pense que je dormais très très peu à ce moment-là. Hein. C'est un des facteurs. Maintenant, est-ce que c'est le seul? Je pense pas. Bon, Luchini le fait merveilleusement. Dans le film, j'ai une centaine de détails que j'ai donnés au scénariste. Mmh. C'est-à-dire que je retrouve réellement ce que j'ai vécu. Et en même temps, c'est Luchini, c'est marrant, on pleure, on rit sans arrêt dans ce film. C'est assez fantastique.
Voilà, effectivement, le film vaut par l'histoire et l'interprétation de Luchini. Donc vous serez pas transcendé par le cinéma. Mais on passe un bon moment et surtout, on ressort de la salle en se disant qu'il faut peut-être un peu lever le pied, diminuer le café, reprendre le sport. Voilà. Hein, les Philippe?
Ouais, je voudrais bien un autre café, je dis à la cantonade.
Moi, je fais déjà une heure de vélo par jour, mais je vais diminuer sur le café. Juste une question à Philippe Manœuvre.
Allez-y.
Vous dites que la rencontre avec Luchini a changé en quelque sorte Johnny Hallyday.
Moi, j'ai connu Johnny à la fin des années 80. C'était un jeune chien fou, rigolo, un petit étalon sur les routes du rock'n'roll et tout. Et quand je l'ai retrouvé en 2014, quand on a fait la tournée américaine ensemble, c'était un autre bonhomme. Il avait fait une vingtaine de films avec des gens comme Jean Rochefort, Fabrice Luchini, Emmanuel Seignier, plus les réalisateurs. Il a communiqué avec ces gens du cinéma qui lui ont appris beaucoup de choses. C'était un autre Johnny Hallyday. C'était un bonhomme qui était, je dirais, était conscient de sa dimension. Et je crois que c'est le cinéma qui l'a aidé à comprendre ce qu'il était vraiment.
Dernière question à ce sujet-là, Philippe Manœuvre. Votre rêve de gamin, c'était d'être journaliste ou d'être star du rock?
C'était d'aider le rock à continuer, à progresser. C'était d'être un soldat, un humble soldat du rock. J'ai voulu consacrer ma vie au rock. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je dis satisfaction.
Restez avec nous. On va parler des soldats du rock et des soldats de 14-18. À tout de suite.
19h47, vous écoutez votre grand journal du soir avec Philippe Vandel.
Suite et fin de cette demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Zah, Thierry Geffrotin, Mathieu Charrier, évidemment Philippe Manœuvre pour son livre Rock, ma vie est en roman, c'est chez HarperCollins. Vous y racontez que vous avez vu des ovnis.
Mais oui, Philippe Vandel.
Comment ça, mais oui?
Bah pourquoi pas? Mais attendez, c'est mon livre aussi.
Oui.
C'est ma biographie. Donc si je dis par moment, attention, je vais exagérer, mais je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé.
Ah, vous avez exagéré, mais vous ne les avez pas vus. J'ai pas cru. Quand j'ai lu le passage, ils disent pas vrai, il n'a pas vu des ovnis.
Dans quel contexte vous avez vu des ovnis?
Non, on va encore parler de drogue. Je ne veux pas.
Ah, voilà, d'accord.
Thierry Geffrotin est arrivé avec un énorme coffret, Thierry.
Ouais.
Imposant au format des disques 33 tours.
Moi, je les collectionne.
Boris Vian, sans chanson. De quoi s'agit-il? J'imagine que c'est sans chanson. Voilà. De Boris Vian.
Vous avez pratiquement tout dit.
Allez, il y en a
pratiquement 100 chansons rassemblées en 6 vinyles. En effet, il n'y a pas que le format, il y a vraiment les vinyles, les 33 tours et 4 CD. Vous savez évidemment qu'il est décédé en 1959 à l'âge de 39 ans, vous vous rendez compte. Et j'ai donc préparé pour vous et pour les auditeurs et pour nos amis là autour de moi, bien sûr, un petit blind test,
oh
vous savez.
Yeah,
yes, on va essayer de retrouver le titre de quelques chansons de Boris Vian avec juste l'intro, l'introduction pour vous aider. C'est parti.
Alors ça c'est le défilé.
On n'est pas venu pour se faire engueuler. On est venu pour le défilé.
Ouais, on se l'écoute.
On n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé.
On n'est pas là pour se faire assommer.
Bon, c'est tout, parce qu'il y a quand même d'autres extraits. Allez,
allez-y.
Allez-y, c'est reparti. Ah,
c'est moi mal.
Fais-moi mal.
Oui, fais-moi mal, Johnny.
Johnny.
Vas-y, mon loup, fais-moi mal.
Voilà, les chansons de Boris Vian n'ont pas été interprétées que par Boris Vian. Vous avez Magali Noël, Philippe Clay, vous avez Jacques Higelin aussi. Allez.
Et puis en recording, le premier disque de rock'n'roll en France.
Avec Henri Salvador.
Sous le nom de recording.
C'était son blind test numéro 3, non?
Allez, non, le 3, allez. C'est parti. Alors là, c'est facile. La complainte du progrès.
Mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon plat à masse.
J'aurais pas reconnu l'intro.
Mon cirque d'as, mon repas solimace, mon tabouret. Et
d'ailleurs, moi j'aime beaucoup les intros parce que ça dit beaucoup de la chanson de ce qui suit. Alors, petit échantillon à 3 chansons parmi les 100 figurant dans ce coffret, qui est en fait une réédition. Le premier coffret est sorti en 1965, il était épuisé depuis longtemps, vous vous doutez. Ce coffret avait été conçu par l'un des amis de Boris Vian, il s'appelle Jacques Canetti, producteur patron d'une des salles mythiques de Paris, les Trois Baudets, là où Boris Vian a fait ses premiers pas sur scène en 1955. Et c'est sa fille, Françoise Canetti, qui s'est chargée de cette nouvelle édition augmentée. Et en particulier un livret vraiment très, très, très riche, au format 33 tours aussi.
Dans lequel on apprend que c'est Mouloudji qui a créé la chanson du déserteur.
Eh oui, absolument. Je vois, vous savez tout, hein, Philippe. Hein.
J'ai été briefé.
Ah bon, vous apprendrez...
Par vous.
Ouais, vous apprendrez peut-être aussi que Boris Vian était diplômé de l'école centrale.
Ouais.
Hein, c'est pas rien. Qu'il a travaillé à l'AFNOR, vous savez, l'association française de normalisation. Il avait d'ailleurs comme projet, je trouve ça absolument incroyable, de normaliser les insultes. Bon, ce qui n'a rien donné. Boris Vian, écrivain, traducteur d'horreur, romans de science-fiction, des mémoires du général Bradley qu'il admirait pas du tout, acteur, critique musical, chroniqueur dans Jazz Hot, directeur artistique de maison de disques, j'en passais des meilleurs, et il était trompettiste, ce qui nous ramène à la musique qui chante.
Je suis statue, voyez mon socle, je suis ministre avec monocle, je suis acteur, je joue Sophocle.
Il semblerait que ce soit Jacques Higelin.
Frère Jacques. Non mais Boris Vian, il est au centre de tout ce qu'il y a d'intéressant en France. Mais il devait travailler avec Gainsbourg. Il avait dit à Gainsbourg, on va faire des trucs ensemble juste avant sa disparition. Gainsbourg parlait de Boris Vian, il le révérait quoi. C'était là-haut, il y avait Boris Vian. C'est extraordinaire quand on réécoute ça aujourd'hui. C'est vraiment le premier rock paru en France qui s'est vendu à plus de 2 millions à l'époque. Et en recording, très très très, qui croyait, c'était Henri Salvador qui croyait que ce disque allait abîmer sa carrière, à partir du moment où ça s'est vendu à 2 millions, a exigé par voie d'avocat qu'il y ait sa photo sur la pochette. Alors que c'est lui qui avait demandé qu'on mette pas son nom. Mais c'est vraiment, ça c'est la petite histoire.
Magnifique anecdote.
Alors je vous le redis, le coffret Boris Vian sans chanson aux éditions Jacques Canetti, environ 75€. Autrement dit, vous replongez dans la tête de Boris Vian pour 75€, quoi.
Merci beaucoup Thierry Geffrosin. Vanessa Zah. Oui. Je me tourne vers vous, car vous nous proposez de faire du tourisme. En même temps, Manœuf se tourne vers vous. De faire du tourisme de mémoire pour célébrer le centenaire de l'armistice. J'imagine qu'on part à Verdun.
Eh bien non, on prend la direction de l'Ouest pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'armistice franco-allemand a été signé en forêt de Compiègne, la Clairière, hein, où se sont retrouvés Angela Merkel et Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais aussi parce que l'Oise a été le premier rempart avant Paris et le premier département libéré. Et puis si on zoome, on se rend compte surtout que la ligne rouge de la guerre a marqué l'histoire de l'Oise, de Compiègne à Senlis, en passant par Beauvais et Noyon, et c'est ce que je vous propose de découvrir. Donc on commence par Compiègne, avec le mémorial de l'armistice qui a rouvert cet été après de longs travaux, et c'est une réussite. Il a été complètement dépoussiéré avec une nouvelle scénographie complètement immersive et interactive. La star du musée est toujours là, le wagon dans lequel a été signé l'armistice dans la clairière de Rotondin.
C'est le wagon original ?
Alors non, en fait Hitler l'a fait brûler après 1940, mais ils ont installé un wagon de la même série, mais qui a été aménagé avec les meubles d'origine, les encriers, les lampes et le téléphone de campagne. Et donc quand vous arrivez comme ça dans ce lieu, on est directement transporté dans l'histoire grâce au jeu de lumière. On est au petit matin du 11 novembre 1918, l'ambiance est très solennelle, on devine ce wagon, et ce n'est qu'en s'approchant vraiment qu'on aperçoit derrière les vitres ce bureau dans une lumière toute feutrée. C'est assez poignant.
Alors sur cette fameuse ligne rouge de l'Oise, Quelles autres traces de 14-18 vous nous conseillez?
Alors, il y a le très beau château de Pierrefonds, hein, qui semble sortir d'un conte de fées que c'est Tourelle, mais qui en fait a été transformé pendant la Grande Guerre en un lieu de cantonnement et surtout en fait de répit pour les soldats qui attendaient d'être envoyés au front. Et donc, ils étaient 1000 à se croiser chaque jour. Et là, ils jouaient au football, au baseball, ils faisaient de la gymnastique, ils montaient des pièces et puis surtout, ils dessinaient. Alors justement, en parlant de dessin, il faut absolument aller explorer un petit musée, le musée de la mémoire des murs à Verneuil-en-Alatte. C'est là que sont exposés tous les graffitis des poilus. Et c'est une manière de se glisser dans leur tête, de palper leurs peurs, mais aussi leurs attentes. C'est assez émouvant. Ils ont dessiné énormément de femmes sur les murs, une grande majorité de femmes, habillées ou même nues. Et ça aussi, c'est une visite assez émouvante et c'est une visite à faire aussi avec des enfants. Et puis mon dernier coup de cœur, ce sont les menus de 14-18 qui ont été revisités à l'aide d'un grand historien dans 9 restaurants de l'Oise. Alors à l'époque, les soldats n'avaient le droit de manger que du lapin, du bœuf ou ce qu'on appelait du singe, les fameuse boîte de conserve, le cornet beef, et le tout accompagné de pain, de concentré de tomate, et puis des fameux courbouillons, des bouillons cubes qui ont été mis au point spécialement pour eux. Voilà, donc réaliser ces menus a été un vrai défi, même si certains plats comme les tripes à la mode de Caen ou le pâté en croûte sont toujours à l'ordre du jour. Je regarde Thierry qui me regarde.
Je suis canée.
Il faut quand même savoir qu'un tiers des ingrédients de l'époque a quand même disparu.
Merci beaucoup Vanessa Zah. Philippe Manœuvre, vous parlez dans ce livre de votre grand-père Paul, qui a fait la guerre de 14-18 et pour qui elle a duré plus de 5 ans.
Ah oui, elle a duré longtemps. L'Alsace a été rendue aux Allemands et donc il a été conscrit dans l'armée allemande. Mais en face, dans l'armée française, il y avait son frère qui lui était à Paris, était dessinateur. Et donc les deux frères se tiraient dessus concrètement. Quoi. Mon grand-père m'a dit, j'ai jamais pu tirer sur personne, je tirais en l'air, je savais que mon frère était en face. Donc les Allemands ont vite découvert que les Alsaciens avaient un peu de mal à tirer sur les Français. Et ils ont été envoyés sur le front russe. Et c'est là que mon grand-père a été capturé par les Russes. Et lui, il est resté prisonnier après la fin de la guerre. Il est rentré, je crois, 4 ans après la fin de la guerre. Il est arrivé dans son petit village de Tann. Mes grands-pères ont fait plusieurs guerres et ils avaient pas envie que ça recommence.
Je vais conclure pour vous. C'est une histoire assez démente. Il y en a plein d'autres, des histoires démentes. Ça s'appelle Rock. C'est signé Philippe Manœuvre. Ça sort chez HarperCollins. Merci Philippe Manœuvre d'avoir été avec nous.
Merci
Vanessa. Merci Thierry. Merci Mathieu.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
Et dans un instant, vous retrouvez Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Et puis nous, on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée à tous sur Europe 1.